Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Je vous l'ai annoncé la semaine dernière, alors que le mois de mai touche à sa fin et que plusieurs saisons de concerts sont déjà terminées, c'est désormais la saison des festivals qui se profile. Ils sont nombreux dans notre région à partir du mois de juin jusqu'au début de l'automne suivant. Passe-ton-bac d'abord est l'un des premiers à avoir lieu et il se tient cette année du 6 au 8 juin. Michel Brun, son fondateur et directeur artistique, est l'invité de ce numéro. Nous allons avoir le plaisir de présenter en sa compagnie la programmation d'édition 2025 de cet événement. Événement qu'il organise, je le rappelle, avec toute l'équipe de l'ensemble baroque de Toulouse. À ses côtés, toujours fidèle au poste, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous allons tout de suite revenir avec Serge sur l'actualité musicale la plus récente, Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Michel et bienvenue Serge, très heureux de vous avoir réunis tous les deux pour cette émission. Retour d'abord sur le concert que les Sacboutiers ont donné samedi 24 mai au Théâtre du Capitole. Vous savez que depuis quelque temps maintenant, l'ensemble de cuivres anciens de Toulouse s'y produit chaque année pour des programmes de musique ancienne, leur répertoire de prédilection. Cette fois-ci, c'était les grands madrigaux de Claudio Monteverdi qui étaient surtout à l'honneur. Mais pas seulement, Serge. Il y avait un petit intrus.
Il y avait un petit intrus qui s'appelle Dario Castello, qui est presque contemporain de Monteverdi. Mais c'était surtout Monteverdi qui était à l'honneur. Et il est vrai que les Sacboutiers sont des habitués de ce répertoire. Alors, ils étaient d'abord réunis à 7 instrumentistes. Et donc, ils avaient invité 3 chanteurs. Une chanteuse et 2 chanteurs, vraiment de très haute qualité. Il y avait d'une part la soprano Andrea Soare, le ténor Victor Sordo et le baryton Fulvio Zanassi, qu'on a déjà vu plusieurs fois ici à Toulouse chanter ce répertoire qui est vraiment le sien en quelque sorte. Les 3 chanteurs donc participaient à la plupart des pièces données, mais il y avait aussi 1 ou 2 pièces instrumentales. Et le tout a commencé avec l'opéra de Monteverdi, qui est souvent considéré comme le premier opéra de l'histoire. Ce n'est pas tout à fait vrai, il y en avait eu avant. C'est l'Orfeo de Monteverdi avec la scène de la Musica, qui est extraite du prologue donc, de ce magnifique opéra. Scène emblématique, on peut dire. Hein. Et donc, on a entendu la soprano qui est d'origine roumaine, en fait, Andrea Soare, qui projette vraiment un timbre inhabituel de puissance et de richesse, mais capable des nuances les plus extrêmes, magnifiquement entouré par l'ensemble instrumental. Et donc, ça a été un très beau moment, très émouvant. Et puis ensuite, l'air Zefiro Torna, qui est extrait des Scherzi Musicali. C'est le ténor Victor Sordo, ténor espagnol, qui l'a rivalisé de virtuosité avec la sacoboute Daniel Lassalle. On sait de quoi Daniel Lassalle est capable comme virtuosité avec la sacoboute. Ensuite, il y avait la fameuse Lettera Amorosa, toujours de Monteverdi, et le retour d'Andrea Soare, qui exprimait là, avec beaucoup de finesse, la sensibilité de l'écriture de Monteverdi dans cette lettre amoureuse, vraiment émouvante. Hein. Et puis ensuite, il y a eu le Confitebor, qui est extrait de la Selva Morale, qui a été déclamé vraiment avec beaucoup de conviction par Victor Sordo, avant que les 3 chanteurs se retrouvent avec la venue de Fulvio Zanassi dans le ballo madrigalesco, c'est comme ça qu'il est qualifié, Tirsi e Clori, c'est un madrigal évidemment, qui évoque le monde pastoral, très très doux et très agréable. Et c'est là qu'a eu lieu l'intermède purement instrumental de Dario Castello, qui est la sonata Decima Sesta Sopra la Battaglia, une sonate vigoureuse qui décrit la bataille, avec vraiment un langage virtuose, bien soutenu par les musiciens. En particulier, il y a un duo entre le violon et le cornet à bouquin qui rivalise d'habileté musicale. On dit qu'à l'époque, le cornet à bouquin pouvait jouer aussi vite qu'un violon. Et là, c'était le cas, donc ça a été très bien. Et puis, la dernière pièce, Alors là, je dois dire, c'était vraiment l'apothéose. C'est Il combattimento de Tancredi e Clorinda, donc le combat de Tancrède et Clorinde, qui est un madrigal guerrier, inspiré d'un poème épique du Tasse, le poème Le Tasse, La Jérusalem délivrée, qui avait été publié en 1581. Alors, c'est un dialogue, même un trilogue, on pourrait dire, entre chrétiens et musulmans, qui a conduit Monteverdi donc à écrire cet opéra sur le style qu'on a caractérisé à l'époque comme étant le style concitato, le style agité, alors d'une efficacité dramatique vraiment incomparable. Alors en fait, il y a trois personnages qui animent ce récit. Les deux protagonistes de la pièce, le chevalier chrétien Tancrède et la guerrière sarrasine Clorinde, qui ne se reconnaissent pas au début, et puis l'un va être amené à tuer l'autre alors que c'est la femme qu'il aime. Donc c'est un conflit religieux étonnant, hélas, on en a vu d'autres depuis. Ça, c'est les deux personnages qui ont finalement un rôle chanté très court. C'est en fait le récitant, qui est incarné par le Tasse lui-même, donc, là qui était chanté par le baryton Fulvio Zanassi, un baryton, on pourrait dire, coloratour, parce qu'il est capable des vocalises les plus invraisemblables, et donc c'est lui qui est au centre de la scène et qui tient ce rôle essentiel. Et là, moi, ce qui m'a stupéfait, c'est sa présence, la perfection vocale et expressive, évidemment, mais également son incarnation du personnage qui décrit, qui ressent toutes les émotions du sujet, qui prend le public à témoin, qui s'émeut de la tragédie, et il chantait tout ça sans partition, évidemment, il était directement face au public. Donc ça a été vraiment un grand moment. Et là, je dois souligner qu'il faut remercier l'administration du Théâtre du Capitole qui a tout au long du concert surtitré tous les textes. Tous les textes italiens étaient visibles, compréhensibles par toute l'assistance. Et ça, c'est vraiment important. Donc, vraiment, bravo, continuez, on peut dire, de surtitrer. C'est quand même très important. Les textes sont fondamentaux, là. Hein. Il faut absolument comprendre tout ce qui se passe. Vraiment, le public a été très enthousiaste, au point que les musiciens et les chanteurs sont revenus pour reprendre le balletto de Tirsi e Clori, toujours de Monteverdi, donc qui a prolongé encore la fête tout au long de cet après-midi qui avait débuté à 16h.
Et la salle était pleine. Et bien, oui. Pour illustrer ce retour sur le concert des Sacboutiers samedi dernier au Théâtre du Capitole, voici un extrait du madrigal Zefiro Torna de Claudio Monteverdi, El bel tempo rimena, interprété par l'ensemble de Cuivres Anciens de Toulouse.
Tu fino, 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 tu
El bel tempo rimena, interprété par les Sacboutiers, extrait du madrigal Zefiro Torna de Claudio Monteverdi, pour conclure ce retour sur le concert de l'ensemble de cuivres anciens de Toulouse. C'était samedi au Théâtre du Capitole et c'est aussi ce même samedi 24 mai qu'a eu lieu le dernier concert en date de l'Orchestre National du Capitole, un rendez-vous du cycle Happy Hour, un peu particulier puisque c'était le happy hour du chef. Oui. C'est donc Tarmo Peltokoski qui l'a dirigé et qui en avait choisi le programme. Et ce programme, Serge, était franco-finlandais, oui. Manière de montrer sans doute que la vie du jeune chef se passe désormais entre sa Finlande natale et la France, plus précisément entre la Finlande et Toulouse, soyons un peu chauvins.
Oui, exactement. Précisons-le. Alors, je voudrais quand même préciser que, juste avant que le concert ne s'ouvre, on a de nouveau entendu le représentant syndical des musiciens, Jean-Baptiste Jourdain, qui s'est adressé une nouvelle fois, il l'avait déjà fait au cours d'un concert précédent, au public, pour évoquer les difficultés rencontrées à propos du financement des activités culturelles, et en particulier musicales, de la cité. Alors, il a de nouveau rappelé les problèmes que ça imposait, et il a été très applaudi par la salle, qui a été vraiment vibrante aux côtés des musiciens qui l'ont applaudi aussi. Donc ensuite, le programme musical s'est déployé, et un programme à la fois enrichi par les présentations et les commentaires de Tarmo Peltokoski lui-même. Il a pris un micro, il s'est adressé au public avec à la fois ardeur et humour, et donc il a salué tout d'abord en français Toulouse et la France. Et puis ensuite, il s'est exprimé en anglais, mais c'était traduit. Et il a voulu évoquer son amour à la fois pour son pays d'origine, la Finlande, et son pays d'accueil, auquel il a tenu à rendre hommage. Et donc, le programme musical était constitué de 4 partitions, 2 partitions finlandaises, 2 partitions françaises. Un bel équilibre.
Oui, il ne veut pas faire de jaloux.
Voilà. Avec une œuvre rare qui ouvrait la séance, c'est, j'avoue, une œuvre que je ne connaissais pas, Le tombeau resplendissant d'Olivier Messiaen, une œuvre qu'il a composée à l'âge de 23 ans, à la suite du décès de sa mère. Et donc, on sent qu'il y a dans cette œuvre à la fois de la violence, de la passion et de la douleur. Et donc, on a découvert cette œuvre, magnifiquement jouée par l'orchestre. Alors, l'extrême douceur des passages évoquait donc l'image de la mère, alors que la violence, mais vraiment, une violence de l'orchestration, très forte et très riche, avec les couleurs qui sont si caractéristiques de ce que sera l'écriture de Messiaen, avec une direction dynamique du chef et l'implication de chaque pupitre. Je rappelle ou j'indique que le tout premier concert que Tarmo Peltokoski va donner la saison prochaine à la tête d'orchestre du Capitole, eh bien, ce sera avec la Tourangali, la symphonie du même Messiaen. Oui. Donc, vraiment, c'est un compositeur qu'il aime beaucoup. Ensuite, venaient les 2 pièces de musique finlandaise, avec tout d'abord une œuvre de la compositrice Kaija Saariaho, qui est disparue à Paris en 2023, donc récemment. Et alors, Tarmo Peltokoski a insisté sur le fait que elle a finalement adopté la France. Elle a passé la fin de sa vie à Paris. Et donc, sa pièce, qui était intitulée « Ciel d'hiver », par contre, est inspirée par la froide saison finlandaise. Et donc, c'est une pièce qui évoque du presque silence, en quelque sorte. C'était étonnant, qui évoquait les étendues glacées, le crissement de la neige sous les pas. Enfin, une pièce très poétique, un statisme musical étonnant, qui contrastait évidemment avec la pièce précédente. Ensuite, il s'agissait de nouveau donc d'une pièce finlandaise du compositeur et chef d'orchestre, d'ailleurs plus connu comme chef d'orchestre, Esa-Pekka Salonen, une pièce intitulée « Hélix », alors qui est un symbole géométrique de l'ellipse ou de la spirale, comme nous l'a expliqué Tarmo Peltokoski. Il a vraiment détaillé l'explication de cette pièce. Et alors, il a dit une chose amusante, qui s'est traduite dans les faits. C'est une œuvre qui se joue de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et il a précisé, et lorsqu'on ne peut plus jouer plus vite et plus fort, eh bien on s'arrête. Donc voilà les conclusions de Tarmo Peltokoski. Et donc c'était intéressant, un immense crescendo donc en quelque sorte. Et puis la dernière apparition, alors là, on était en terrain connu, puisqu'il s'agissait de La Mer de Claude Debussy, qui est au répertoire de l'orchestre depuis des générations.
Depuis Michel Plasson.
Oui, depuis Michel Plasson.
Enregistré.
Et peut-être même avant, hein, mais bon, on le sait, c'est une symphonie qui ne dit pas son nom, mais une sorte d'emblème de la musique française. On pourrait dire musique impressionniste, même si Debussy a toujours refusé qu'on qualifie sa musique d'impressionniste. Alors avec les trois mouvements habituels, hein, de l'aube à midi sur la mer, alors comme un réveil progressif, puis le rythme de jeu de vagues, magnifiquement soutenu par la direction, qui ensuite a animé progressivement le dernier mouvement, Dialogue du vent et de la mer, avec l'orage qui éclate, etc. Ça a été vraiment une exécution d'une vitalité remarquable. Hein. Donc, un grand moment, avec des applaudissements du public, à tout rompre, en quelque sorte. Là aussi, une salle pleine, évidemment. Applaudissements qui se sont mêlés à ceux des musiciens, qui remercient ainsi chaleureusement leur chef. Donc, on sent qu'il y a vraiment un lien incroyable entre les musiciens et ce nouveau...
Une lune de miel qui se prolonge et qui ne se
pas. Oui. Qui a débuté avec le Festival Ravel.
Ça continuera, bien sûr.
D'Andaï, donc, voilà. Et puis, pour terminer, et ça, c'est... c'était la tradition ici. Le chef est revenu sur scène avec un bouquet de fleurs qu'il a offert au percussionniste Christophe Dewar-Humez.
Ah, ça y est, lui aussi.
Qui vient prendre sa retraite. Qui part à la retraite après plus de 40 années au sein de l'orchestre
des anciens,
du Capitole.
On les
vraiment
voit partir. Parce que tous les 6 mois, là, il y en a un qui part.
Ensuite, ils sont remplacés.
Bien sûr, mais.
Espérons que les.
Sont des figures, notamment Christophe Dewar-Humez, qu'en tant que percussionniste, évidemment, on le voit.
Et donc, c'est vraiment. Vraiment.
C'est une page qui se tourne.
Donc, le concert s'est terminé dans le bonheur et la joie.
Comme nous n'avons pas trop l'occasion d'entendre la musique de compositeurs contemporains dans cette émission, je propose de vous faire écouter celle de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho. C'est un extrait de Ciel d'hiver, l'œuvre qu'a dirigé Tarmo Peltokoski samedi à la Lohgrin. Voici son deuxième mouvement, Après Orion. After Orion, après Orion, deuxième mouvement de Ciel d'hiver, cette pièce composée par Kaija Saariaho que Tarmo Peltokoski a dirigée à la tête de l'orchestre du Capitole samedi dernier à la Lohgrin lors de son Happy Hour du chef, Le prochain concert de l'ensemble symphonique toulousain a lieu jeudi 5 juin au Zénith de Toulouse Métropole. C'est un ciné-concert lors duquel il va jouer la bande originale du film Star Wars. Fin de cette première partie d'émission, une courte virgule musicale et l'on se retrouve avec Serge Chosy et Michel Brun pour l'agenda de Mélomanie que nous allons entièrement consacrer au prochain festival Passe ton bac d'abord. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et la 17e édition de Passe ton bac d'abord se déroule cette année du vendredi 6 au dimanche 8 juin dans divers lieux et salles de la Ville Rose. Je signale qu'il y aura auparavant quelques premiers concerts gratuits dans des bars toulousains, notamment du 3 au 5 juin, à travers le collectif Culture Barbare. Pour notre part, sachant qu'il y a plus de 30 événements en tout, nous allons nous concentrer sur ce qui va se passer du 6 au 8. Une question préalable tout de même, Michel. Sur les affiches annonçant le festival apparaît l'expression « à l'improviste » avec un point d'exclamation. Ce serait donc ça, si je comprends bien, le thème de Passe ton bac cette année. Et qu'est-ce que ça veut dire un festival à l'improviste ?
Alors, si vous regardez bien, le graphisme de à l'improviste est en deux parties. La première partie, c'est à l'impro, et en dessous, il y a viste.
Et donc, heureusement que ce n'est pas vice, hein, parce qu'on voilà, se posait des questions.
Mais non, c'est viste, absolument. Mais donc, ça fait référence, bien entendu, à une chose qui était extrêmement importante à l'époque de la musique baroque, qui est l'improvisation. Et donc, nous avons décidé de consacrer cette édition à l'improvisation. Alors évidemment, ben, si on avait baptisé cette édition du festival, je sais pas moi, qu'est-ce que l'improvisation, enfin ça faisait un tout petit peu... Voilà.
Ce soir on improvise,
voilà,
non c'est déjà prévu.
On a préféré un mot un petit peu plus imagé, évocateur, mais c'est bien à l'improvisation que s'attaque cette 17e édition du festival.
Alors tous les concerts ont une durée de 30 minutes, sauf indication au contraire sur le programme. Ça, c'est un principe qui n'a pas changé, mais il y a beaucoup de concerts qui durent plus longtemps. Bon, ça va se passer dans des lieux patrimoniaux, dans les librairies comme Ombre Blanche, à la Lograin pour le concert de clôture, on y reviendra plus tard, au couvent des Jacobins, et puis il y a un nouveau lieu, la cabane, la cartoucherie. Dites-nous-en un petit peu plus sur ce lieu.
Oui, tout à fait. Alors la cabane est donc la nouvelle salle de concert et qui se trouve donc effectivement derrière la halle de la cartoucherie rénovée. Je ne sais pas si vous le connaissez ce lieu, mais c'est un lieu absolument extraordinaire.
Ah oui, qui était entièrement, enfin le lieu était entièrement refait. Voilà, c'est un nouveau quartier.
La rénovation a été extrêmement bien faite à l'intérieur. Ils ont conservé l'essentiel de l'architecture ancienne, même si c'est pas ancien au sens des Jacobins, bien sûr. Et dans ce lieu, ben il y a toutes sortes d'activités. Alors beaucoup d'activités de bouche, faut bien reconnaître. Donc je pense que ça veut dire qu'on sait que les Toulousains sont des gourmets. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants, mais c'est un lieu incroyablement chaleureux, extrêmement animé. Alors c'est une réussite exemplaire sur ce plan-là. Enfin, je ne veux pas leur faire de la pub, ils n'en ont pas besoin. De toute façon, il y a beaucoup de monde. Il y a également donc d'autres choses. Hein. Il y a une librairie, il y a également des salles de sport,
oui,
il y a etc. etc.
Oui,
il y a,
c'est vraiment un nouveau quartier. Hein.
C'est un nouveau quartier et la halle regroupe tout ça. Et à l'arrière de cette halle, donc, il y a une nouvelle salle de spectacle. Alors absolument formidable sur deux plans, sur le plan de l'équipement technique et également sur le plan de l'équipe. Et nous avons noué un partenariat avec cette salle donc pour effectivement venir donner une soirée à la cabane.
Salle de 400 places.
Salle de 400 places, voilà. Voilà.
C'est la contenance de Saint-Pierre-des-Cuisines, par
exemple.
C'est
exactement
exemple,
le voilà, tout
à comparer, fait. Voilà. Mais ça ancre un peu plus... Passe ton bac dans le patrimoine musical toulousain, Serge, parce que si on a obtenu le label UNESCO, c'est entre autres parce qu'on a des festivals comme Passe ton bac.
Exactement.
Ça, je tenais quand même à le rappeler. Donc, 17e édition cette année, nous allons survoler aussi largement qu'on le pourra la programmation du festival 2025. On ne peut pas être exhaustif, hein, 30 concerts, ce n'est pas possible. On va se concentrer d'abord sur les temps forts et notamment sur les rendez-vous que propose l'ensemble baroque de Toulouse. Et dès le vendredi 6 juin, vous présentez à 19h à la cabane, justement, au hall de la cartouche. Un programme de concerto pour basson de Vivaldi. Ça, c'est un projet aussi original qu'ambitieux que vous menez depuis déjà quelques années, et ce, avec l'excellent bassoniste Laurent Le Chenadec.
Voilà. Qui dit basson à Toulouse et Dulciane, donc évidemment, c'est-à-dire l'ancêtre du basson, hein, d'une certaine manière, dit Laurent Le Chenadec. La ville a vraiment énormément de chance d'avoir un tel artiste et un tel homme dans ses murs. Alors pourquoi dans ses murs ? Ben, tout simplement parce que Laurent enseigne au Conservatoire de Toulouse depuis maintenant bon nombre d'années, hein, ça commence à faire, et que du coup il est installé à Toulouse. Il rayonne évidemment dans toute la France et dans toute l'Europe, il est régulier régulièrement invité par des ensembles baroques de tout premier plan pour participer à leur programme, mais il est quand même ancré à Toulouse et nous avons la chance de bénéficier non seulement donc de ses qualités de musicien et d'interprète, mais également aussi d'une inventivité, d'une envie de je sais pas comment dire, de faire bouger les choses qui est bien dans l'esprit de l'ensemble baroque de Toulouse. Et c'est lui qui a proposé donc ce projet absolument incroyable, qui est venu me voir en me disant un jour, écoute, voilà, je ne vois pas qui d'autre je pourrais proposer un tel projet qu'à l'ensemble baroque de Toulouse, je voudrais donner en un week-end l'intégrale des 39 concertos pour basson de Vivaldi. Voilà. Alors, entre-temps, on a bien réfléchi en équipe, on s'est un petit peu calmé, on a bien décidé de donner les 39 concertos pour basson de Vivaldi, mais pas en un seul week-end. Voilà, c'est ça. En quelques week-ends, on n'a pas encore défini exactement le nombre de week-ends, et ça, ce sera pour 2027. Donc, alors, comme vous l'avez dit, nous sommes déjà, le projet est déjà entamé, et nous sommes en plein travail là-dessus, et nous allons annoncer ce magnifique projet en avant-première donc du concert d'ouverture en lui-même qui a lieu à la cabane. Mais évidemment, comme c'est un festival Bach, il faut bien que Bach vienne un petit peu mettre son nez, voilà. Et donc, les auditeurs attentifs reconnaîtront quelques petites incursions de Bach dans les nombreuses cadences dont nous régalera Laurent Le Chenadec à cette occasion.
Alors voici un aperçu, je ne sais pas si c'est au programme, en tout cas, de ce que fait notre ami Laurent Le Chenadec avec un basson sur du Vivaldi, c'est le Largo du concerto RV499 en la mineur, et il est accompagné bien sûr par les musiciens de l'ensemble baroque de Toulouse. Du concerto RV499 en la mineur de Vivaldi, joué par Laurent Le Chenadec, accompagné par les musiciens de l'ensemble baroque de Toulouse. Un mot, Michel, pour présenter le concert qui suit, au même endroit, à 20h, toujours à la cabane donc. Il est donné par l'ensemble Concert de l'Hôtel Dieu, avec un programme intitulé Back on the Beat, c'est-à-dire Back dans le rythme, dans le tempo. Ça mérite quelques explications.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un programme auquel je tenais beaucoup. Il nous a fallu pas mal d'énergie pour réussir à le monter. C'est un quasi-création que va nous proposer donc cet ensemble lyonnais, qui est un petit peu frère de l'ensemble baroque de Toulouse, puisque lui aussi, bien sûr, pratique cette musique, mais également lui aussi est organisateur de festivals. Cet ensemble et son chef en particulier, Franck-Emmanuel Comte, aime beaucoup Jean-Sébastien Bach. Donc ça fait longtemps qu'on est et d'ailleurs, ils sont déjà venus à Paston-Bach avec l'ensemble, et ils nous ont déjà invités dans certains de leurs festivals. Mais là, c'est vraiment une proposition artistique tout à fait nouvelle, parce que les musiciens classiques, petit ensemble, ensemble, une petite formation de musique de chambre du concert de l'Hostel Dieu, sera accompagnée d'un beatboxer, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait de la musique avec des bruits, des bruitages, et en particulier des bruitages de bouche, mais pas que, des bruitages corporels également. Voilà. Et c'est très, pour moi, très intéressant, parce qu'un petit peu à l'image de ce qu'on a fait l'an dernier au métronome en conclusion du festival, à Passons-Bac d'abord, il y a des concerts classiques et il y a des concerts non classiques. Mais là, c'est une rencontre entre des musiciens classiques et un musicien d'un univers complètement différent, d'un univers qui n'est pas de la musique écrite, mais qui est de la musique orale, voilà, de la musique, ce qu'on appelle actuelle. Et donc, cette rencontre est absolument extraordinaire. Ça anime Bach d'une manière absolument extraordinaire et ça prouve une fois de plus que ce musicien...
N'a pas de frontières.
N'a pas de frontières, absolument. Tolère tout, sa musique, accepte tout, tolère tout. Je pense que lui, il aurait bien rigolé dans son fauteuil s'il avait entendu
c'est
ça.
C'est probable.
Mais il avait tout prévu. Hein,
il avait tout prévu.
Voilà, parce qu'il aurait été curieux. Il aurait été curieux d'entendre ça. Donc c'est à 20h le vendredi 6 juin à la cabane. On passe au concert du samedi soir également à 19h puis à 20h, mais donné cette fois-ci au cloître du couvent des Jacobins, un lieu que vous investissez chaque année. Et on vous comprend parce qu'il est magnifique, surtout à cette saison. À 19h, avec l'ensemble baroque de Toulouse, vous reprenez une partie de votre intégrale des motets de Bach, donnée l'an dernier, lors du festival 2024. Vous allez en reprendre 4. Et tant qu'à faire, plutôt ceux que vous préférez.
C'est ça. Là, c'est un libre choix. Alors évidemment, c'est très difficile. Il y a 6 motets. Hein. Enfin, habituellement, on considère 6 motets. Il y en a un ou deux qui veulent un petit peu forcer l'entrée, voilà, mais qui ne font pas vraiment partie de cette intégrale des motets. On a donné donc l'an dernier cette intégrale en plusieurs concerts. Voilà, c'était un peu la thématique qui parcourait l'ensemble du festival l'an dernier. Et on a reçu des tels échos de la part du public de ces concerts qu'on a eu envie de les redonner. Alors, pas de la même manière, donc en un seul concert. Et donc, du coup, les 6 motets en un seul concert, je pense que ça peut être un tout petit peu indigeste pour le public, très difficile pour les chanteurs parce que c'est des partitions d'une difficulté vocale absolument incroyable. Et donc, on a choisi effectivement 4, ben peut-être, enfin, c'est peut-être un peu égoïste parce que je crois que c'est un peu moi qui ai choisi les 4 que je préfère. Mais j'ai essayé de chercher.
À quoi ça sert d'être directeur artistique,
voilà, c'est
ça, pas
c'est tout à fait. Et aussi parce que j'ai essayé de mélanger des qui sont d'une écriture assez rigoureuse, cette écriture de contrepoint avec des fugues, etc., etc., et des qui sont des sortes de pièces de théâtre, hein, avec des coups de théâtre au milieu en fonction du texte, et qui sont incroyablement imagé sur le plan musical. Et donc, c'est ça qu'on a retenu. Et alors, ce qui est merveilleux dans ce concert, c'est qu'on le donnera effectivement aux Jacobins, mais dans le cloître. Il y aura donc 2 parties dans ce concert. La première partie avec les motets tournés vers le cloître. Les choristes seront sur les colonnades d'une des galeries, de la galerie qui est devant la salle capitulaire. Et la deuxième partie, donc le public sera dans les galeries de côté. Et la deuxième partie, dont on va parler dans un instant, on se retournera et là, ce sera la salle capitulaire habituelle, on va dire, pour un programme là aussi très original et très ambitieux.
Comme d'habitude, original et ambitieux. Alors, à 20h, le grand concert du samedi soir aux Jacobins, eh bien, c'est bien dans l'esprit d'ouverture du festival vers les musiques autres que baroques et classiques, avec le Paul Lai Trio et son programme Bach's Groove. Ça, c'est un concert, un programme qui illustre parfaitement le thème de l'improvisation retenu pour le festival 2025, avec un musicien qui a fait ses classes au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, mais qui fait maintenant partie des plus grandes jazzmen françaises, tout simplement.
Ben voilà, tout simplement, je crois que c'est vraiment ça. Alors moi, j'ai été absolument conquis par ce musicien et cet homme. C'est quelqu'un d'absolument remarquable, que j'ai eu évidemment l'occasion de rencontrer. C'est pareil, ça a nécessité plusieurs années pour réussir à mettre au point ce concert, parce que tout simplement, ma Paul Lai est très pris.
Ah oui, et que, très demandé.
Il est très demandé, il parcourt le monde, et qu'il faut réussir à le coincer, si je puis dire, à l'attraper, évidemment, à un moment où il y a le festival, c'est-à-dire qu'il y a la conjonction de 2 plannings à faire correspondre. Et je suis extrêmement content que finalement nous ayons réussi, parce que c'est un musicien absolument extraordinaire, et là aussi, un homme remarquable, un homme d'une intégrité, d'une intelligence, d'une gentillesse remarquable.
Il est extrêmement sympathique,
je peux le confirmer. Il est très sympathique, absolument.
Jeune musicien encore, il est quadragénaire, à peine. Et il est de notre région. Bon, j'étends un peu, il est d'Orthez, mais c'est pas bien loin. Puis il a fait ses classes à Toulouse avant de faire le CNSM à Paris. Et puis donc, il creuse le sillon Bach depuis quelques années quand même. Hein.
Tout à fait.
C'est
pas nouveau, absolument. Ouais. Ce qui m'a donné d'ailleurs l'occasion de l'entendre.
Alors, Lucie avait fait ça il y a longtemps. Jacques Lussier, vous le savez mieux que moi. Mais Oscar Peterson aussi, il y a
Il jouera, d'ailleurs.
Bach Suite.
Il jouera.
Voilà,
Bach Suite. Un extrait de la suite d'Oscar Peterson.
Oscar Peterson.
Qui est très rarement entendu. Voilà.
Mais Paul Lai a déjà donné au moins un, peut-être plus, récital.
Il a joué au Jacobin, à piano Jacobin.
C'est un lieu qu'il connaît.
C'est un lieu qu'il connaît, absolument. Et il avait fait d'ailleurs déjà un travail autour, mais cette fois-ci de Beethoven.
Voilà, exactement.
Voilà,
Paul Light Trio, donc c'est lui au piano, bien sûr, et puis il y a un contrebassiste et une batterie. Eh bien, nous allons écouter le Paul Light Trio dans un extrait de Bach's Groove. Il s'agit de sa version du prélude en sol mineur. Formidable Paul Lai avec son trio dans cette version du prélude en sol mineur de Bach, un extrait de Bach's Groove, le programme que proposent le pianiste et ses deux musiciens, samedi 7 juin à 20h au cloître du couvent des Jacobins. Nous allons parler tout à l'heure du concert de clôture donné dimanche 8 juin à 18h30 à la Halle aux Grains par l'ensemble baroque. On se le garde pour la fin. Je voulais, avant de le mettre en lumière, mettre en avant d'autres rendez-vous de cette 17e édition, et notamment celui que vous appelez la Cantate Imaginaire, samedi 7 juin à 14h à la salle des Pèlerins de l'Hôtel Dieu, un de vos lieux de ralliement aussi pendant ce festival. C'est redonné le dimanche 8 à 11h à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines cette fois-ci, et c'est une production de l'ensemble baroque avec Claire Subiette. Tiens, voilà encore quelqu'un originaire d'Orthez par sa famille. C'est elle qui va diriger. Et qu'est-ce qu'on va y entendre alors, une cantate imaginaire?
Alors, on va y entendre du Bach, et du Bach cette fois-ci entre guillemets normal, sauf que cette année j'ai décidé de demander aux musiciens de l'ensemble baroque de Toulouse de faire des propositions de programme, et il y en a beaucoup d'entre eux qui vont jouer donc en petit ensemble, voire en musique de chambre. Il y a même un duo, nos deux continuistes, nos deux clavecinistes vont faire un récital à quatre mains, donc voilà, avec deux clavecins, programme qu'elles ont entièrement composé elles-mêmes. Et donc, le hautbois solo de l'ensemble, pareil, j'ai envie de le comparer à Laurent Le Chenadec. C'est pas la même personnalité, il est plus discret, on va dire, voilà, mais c'est un musicien extraordinaire qui lui aussi est invité
Nickel,
dans les plus grands ensembles baroques. L'an dernier, il est venu, par exemple, jouer avec l'ensemble baroque de Toulouse, mais également avec l'ensemble Amaryllis, qui est un des plus grands ensembles baroques français.
Héloïse Gaillard.
Voilà, dirigé par Héloïse Gaillard. Et donc, Xavier m'a proposé de composer une cantate qui n'existe pas, de Bach, cantate dans laquelle il réunissait des arias, évidemment, ayant tous le hautbois, son instrument, comme instrument soliste. Et donc, il a composé ce programme avec les solistes qui chanteront avec nous dans le concert de clôture, que je ne dévoile pas encore.
Oui,
encore
gardons
un peu de suspense
pour ceux qui n'ont pas encore regardé le programme.
Voilà, et donc il a composé ce programme, et le lien évidemment n'est pas un lien de logique, de déroulement de la cantate comme quand c'est Bach qui est aux manettes, mais un lien purement musical, du pur plaisir musical, en alternant évidemment les différentes facettes du hautbois, ce côté virtuose, mais surtout incroyablement expressif de cet instrument.
Sachant que le hautbois était l'instrument le plus utilisé par Bach dans ses cantates,
absolument.
Ça, c'est plus connu aussi. exercice.
Bien sûr, tout à fait.
On parlait du basson pour Vivaldi, mais le hautbois pour Bach.
Tout à fait, absolument. On pourrait dire le violon, puisqu'il en jouait, puis c'est l'instrument le plus, on va dire, le plus pratique à l'époque, peut-être le plus noble, voilà, ou la flûte, parce que c'est un instrument très en vogue et tout. Pas du tout. Dans les cantates de Bach, c'est le hautbois qui est le plus souvent utilisé comme instrument.
Alors, je cite les solistes qui vont chanter, parce que vous avez pris vraiment du très beau monde. Hein. Il y a Vincent Lièvre-Picard, Clémence Garcia, Caroline Champy-Tursin. Alors elle, évidemment, elle est liée à l'ensemble baroque depuis, je ne sais pas, au moins 20 ans.
Non, c'est ça, quelque chose comme ça, absolument.
Voilà, François-Nicolas Gélot, Pierre-Yves Cras à la basse, Vincent Le Texier que nous avons vu dans Voyage d'automne.
Exactement.
Il jouait, je crois, Chardon, il me semble. Samedi 7 juin à 17h et dimanche 8 à midi à l'église Saint-Pierre des Chartreux, vous annoncez un duel au sommet. Alors attention, ce n'est pas un duel de musiciens. Il y a une musicienne, mais c'est la titulaire de l'orgue des Chartreux, Yasuko Uyama Bouvard, pas la peine de la présenter. Et puis il y a un comédien, Vincent Maffer, qui va officier en tant que récitant. Et ce qui m'intrigue, c'est qu'il va lire des textes que vous avez écrits, Michel.
Voilà, tout à fait.
Je
ne me prétends évidemment pas écrivain, parce que je n'ai absolument aucun talent de romancier, mais par contre, j'ai dans ce texte retracé une anecdote tout à fait véridique, qui est très chroniquée, hein, pour laquelle d'ailleurs, alors il y a plusieurs versions évidemment, selon les chroniqueurs, donc les fake news ne sont pas une invention du 21e siècle, hein, et les interprétations diverses aussi, et voilà, les rumeurs, mais donc puisque la thématique de ce festival est autour de l'improvisation, il faut savoir donc que c'était une pratique extrêmement répandue à la période baroque, et qu'elle était tellement appréciée qu'il y avait même des duels d'improvisation. On remettait à deux musiciens le même thème, on tirait au sort, l'un des deux commençait, puis l'autre, et le public, qui était en général composé évidemment de connaisseurs, élisait le meilleur improvisateur. Et il se trouve que donc Jean-Sébastien Bach a été défié par un musicien extrêmement intéressant, un certain Louis Marchand, compositeur français, qu'on considérait comme le meilleur improvisateur de son temps à l'orgue, et qui était parti de France avec quelques casseroles au derrière, il faut bien le dire. C'était un personnage extrêmement déplaisant, très cassant, qui, je suis désolé de le dire mesdames, mais battait sa femme. Comme sa femme avait demandé la séparation, l'avait obtenue et avait obtenu la moitié de ses gains, il s'était un jour arrêté devant Louis XIV au cours d'une messe où il jouait de l'orgue. Il avait fait un demi-service. Et quand on lui avait dit « Mais continuez, monsieur Marchand », il avait répondu « Demi-salaire, demi-service », en présence de Louis XIV. Vous voyez le personnage. Donc ce monsieur se retrouve à Dresde, en Allemagne, cherchant certainement fortune ailleurs qu'en France. Et là, il est vu d'un assez mauvais œil par les musiciens locaux qui lui balancent dans les pattes un certain Jean-Sébastien Bach pour le défier en duel. Je me garderai bien de vous dévoiler la fin. Venez, en tout cas, c'est une histoire incroyable, ce duel entre Bach.
Il est
Bach
très
et
fort pour ménager le suspense. Vous avez remarqué, Serge. Très, très fort. Alors, il y a une autre proposition au titre intrigant. Bach et son double, samedi 7 juin à 18h, à la salle des pèlerins encore de l'Hôtel Dieu, et dimanche 8 à 16h à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'est avec les musiciens de l'ensemble baroque, et c'est vous qui allez diriger. Très rapidement, il s'agit de quoi, la Bach et son double?
Alors, le double, c'est pas du tout un deuxième Bach. Hein. Bach n'avait pas de, comment on pourrait
d'alter
dire...
D'alter ego.
D'alter ego, ni de doublure comme pour les cascades dans les films, hein, pas du tout. C'est juste que le double à l'époque était la reprise d'une pièce, et en général, évidemment, les grands musiciens comme Bach improvisaient cette reprise. Et donc là aussi, il y a l'introduction de l'improvisation. Alors, par contre, là, en l'occurrence, c'est des doubles écrit par Bach, donc quelques très rares exemples de ce qu'aurait pu être une improvisation de Jean-Sébastien Bach, hein, que nous donnerons, et nous donnerons au cours de ce concert également le Ritschercar à six voix de l'offrande musicale, que Bach a été sommé d'improviser par Frédéric II lorsqu'il est venu le visiter et visiter son fils à la cour du roi. Et Frédéric II lui a demandé d'improviser donc sur le thème royal. Et donc, c'est un exemple, là aussi, d'une improvisation qu'aurait pu faire Jean-Sébastien Bach. Voilà.
Et puis, une curiosité, samedi 7 juin à 15h à l'église Saint-Pierre des Chartreux et dimanche 8 à 15h à la chapelle de l'Hôtel Dieu, le récital de luth de Diego Salamanca, dont le programme reprend celui du CD qu'il a consacré dernièrement à Bach, un enregistrement distingué par le magazine Diapason, avec la note maximale 5 diapasons. Un mot rapide sur ce musicien?
Oui, alors Diego, il est déjà connu, puisque nous l'avons déjà invité, je crois que c'était il y a 2 ans, lorsqu'il avait fait un disque autour d'un contemporain, beaucoup moins connu que Bach, Silvio Leopold Weiss, voilà, qui est un magnifique compositeur, vraiment trop peu connu. Et donc du coup, quand il a sorti ce disque autour de Bach, j'ai eu envie de le réinviter, et il viendra donc faire ce récital, et il sera également avec nous dans l'orchestre pour le concert de clôture.
Il ne s'est rien refusé cette année. Hein.
En effet.
Il a pris vraiment le top pour tous les solistes. Voici un extrait du CD Bac aux luttes, enregistré par Diego Salamanca, avec cette interprétation du prélude de la partita en do mineur BWV 997. Magnifique prélude de la partita en do mineur BWV 997 de Bach, un extrait du CD Bach aux luttes, enregistré par Diego Salamanca, qui est donc en concert samedi 7 juin à 15h à l'église Saint-Pierre des Chartreux, et dimanche 8 à 15h également à la chapelle de l'Hôtel Dieu. Le concert de clôture maintenant, donné, je le rappelle, le dimanche 8 juin à 18h30 à la Halle aux Grains, par l'ensemble baroque, ça va de soi, sous votre direction, ça va de soi encore plus, et vous allez y interpréter la Passion selon saint Marc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous aurait menti alors. Ah, Serge, vous êtes d'accord avec moi, on nous a toujours dit, il y a deux passions, il y a la saint Matthieu, il y a la saint Jean, mais la saint Marc, en fait, c'est pas un scoop.
Vous n'avez pas pris vos renseignements aux bonnes sources.
Exactement.
Tous les musicologues savent qu'il y a quatre, voire cinq passions de Jean-Sébastien Bach, mais vous savez aussi. Mais le problème des deux ou trois manquantes, donc il nous reste effectivement, comme vous l'avez dit, celle sur saint Jean et celle sur saint Matthieu, les deux ou trois manquantes ont disparu, comme d'ailleurs beaucoup de la musique de Bach. Hein. Je le répète souvent au moment des cantates sans filet, 100 des 300 cantates ont disparu. Et on pourrait évidemment se désoler de ça, mais on devrait surtout se réjouir d'en avoir retrouvé 200, et d'avoir déjà retrouvé deux, voire trois passions. Parce que comme Bach est mort dans une indifférence totale et en étant complètement passé de mode, eh bien, sa musique aurait pu être totalement dispersée. On dit que le courrier de Jean-Sébastien Bach à son confrère François Couperin aurait servi à boucher les pots de confiture de ce dernier dans sa famille. Voilà. Et donc, les partitions de Bach ont connu pour certaines la même destinée. Et donc, c'est un miracle. Alors, cette passion selon saint Marc. Donc, on savait qu'il avait écrit au moins quatre passions, une sur chaque évangéliste. On pensait effectivement celle sur Luc et Marc totalement disparue. Et puis, après la guerre, a été retrouvé le livret de la partition selon saint Marc. Et là, évidemment, les musicologues se sont mis en chasse pour savoir ce que contenait, parce que le livret, c'était donc uniquement le texte. Alors, vous allez me dire, le texte, ben, on le connaît, c'est l'évangile. Non, évidemment, c'est retravaillé par un librettiste, centré sur la passion, retravaillé par un librettiste pour le rendre plus dramatique, plus théâtral. Et ensuite, ils se sont mis en piste, donc, pour chercher ce qu'était cette musique. Et là, un miracle est apparu, c'est qu'on s'est rendu compte que cette musique était ce qu'on appelle, alors c'est pas un beau mot, mais je vais l'utiliser parce que c'est celui qu'on utilise, était en réalité une parodie. C'est-à-dire qu'elle était composée uniquement pour ses grands chœurs et pour ses arias, elle était composée uniquement de pièces déjà écrites par Bach et qu'il avait composées pour des cantates. Et donc, le travail de Sherlock Holmes a continué pour savoir quelles étaient ces pièces. Et ça a été un travail très long, puisque donc depuis la guerre jusque à la fin du XXe siècle, il y a eu cette recherche et on peut identifier la quasi-totalité des pièces en question et les réattribuer à cette passion. Évidemment, il a fallu remettre le texte nouveau dessus, hein, puisqu'elles avaient le texte texte pour une autre cantate, pour une autre œuvre religieuse. Alors voilà, on avait donc cette passion. Mais il manquait beaucoup de choses, qui sont les récitatifs, donc le rôle de, essentiellement de l'évangéliste, et également de Jésus, puisqu'il y a beaucoup d'interactions entre les deux. Et puis également, il manquait ce qu'on appelle les tourbées, c'est-à-dire les chœurs de foule qui répondent à l'évangéliste. Par exemple, Pilate demande au peuple « Que voulez-vous que nous fassions de Jésus ? Crucifie-le, crucifie-le !» etc. Et là, le peuple se met à hurler, en musique évidemment. Voilà. Et là, nous avons eu la chance qu'un grand connaisseur de Bach, qui nous fait l'immense honneur de venir au festival, qui jouera avec nous dans l'orchestre, qui fera un récital d'orgue également, et qui fera une conférence de présentation sur son travail. Donc Freddy Eschelberger a fait une recomposition de ses parties manquantes. Il a composé tous les récitatifs de l'évangéliste, il a composé tous les chœurs de foule. Et nous avons donc une nouvelle passion de Bach, alors on va dire à 80% de Bach, à 20% de Freddy, mais c'est déjà absolument merveilleux. Le texte sera surtitré à la Halle au Grain.
Formidable.
Pour qu'on puisse
donc,
y voir. On pourrait dire, mais pourquoi ? Parce que la passion, tout le monde connaît l'histoire, mais il faut absolument voir ce rapport incroyable qu'il y a entre le texte et la musique.
Et la musique, bien sûr.
Et voilà, et chez Bach. Et donc, il y aura un surtitrage lors de l'interprétation de cette passion à la Halle au Grain.
Et donc, les solistes, Vincent Lièvre-Picard sera l'évangéliste.
Absolument.
Et puis, nous aurons Clémence Garcia en soprano, Caroline Champy-Tursin en alto, François-Nicolas Gélot, Taylor, Vincent Le Texier et Pierre-Yves Cras, basse. Ça dure 2 heures, comme la Saint-Jean.
C'est exactement la durée de la Saint-Jean, et c'est à peu près d'ailleurs la même nomenclature d'orchestre.
Et nous allons pouvoir écouter le début de la Passion selon Saint-Marc de Jean-Sébastien Bach, le chœur « Geh, Jesu, geh zu deiner Pein ». Va Jésus, va ton supplice, premier chœur de la Passion selon saint Marc. Il y aura encore bien des choses à dire et pardon pour les autres propositions dont nous n'avons pas eu le temps de parler, mais il faut conclure. La 17e édition du festival fondé et dirigé par Michel Brun a donc lieu du vendredi 6 au dimanche 8 juin dans divers lieux de la ville de Toulouse. Vous avez pu voir à quel point elle est éclectique, surprenante, propice à la découverte et toujours de grande qualité. Tout le détail de la programmation et la billetterie sont en ligne sur le site www.baroquetoulouse.com. Notez d'autre part que la 19e édition du festival Ton Voisin se tient à Albi du 3 au 7 juin sur le thème Schubert à Vienne. La billetterie est en ligne sur le site www.ton-voisin.com. Je signale enfin que l'Orchestre de Chambre de Toulouse propose la semaine prochaine sa formule de concert à la Criée, mardi 3 et mercredi 4 juin à 20h30 à l'escale de Tournefeuille. Les places sont à acheter et réservées sur le site www.orchestredechambre.fr. Je remercie Serge Chauzy qui m'a aidé à co-animer cette émission et je remercie Michel Brun d'être venu nous présenter avec le brio qu'on lui connaît et la passion qu'il anime la 17e édition du festival Passe ton bac d'abord. Je remercie aussi Coraline Camebrac qui a réalisé ce numéro aujourd'hui. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et je remercie enfin les fidèles, comme les nouveaux auditeurs de Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous.